Je vous invite, frères et sœurs, de tourner dans Tite et on va voir le chapitre 2 ce soir, Dieu voulant, ensemble. Quelle joie de voir une épître, une lettre si pratique, ça nous exhorte beaucoup. Si on parle d'abord aux leaders, c'est normal, on commence par le leadership, mais il faut parler de la vie de tous les jours de chacun d'entre nous. Il y en a pour chacun d'entre nous ici dans ce merveilleux passage. Rappelez-vous dans Tite 1, au verset 1, ça va nous aider parce que cette lettre qui a été écrite par Paul, le serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, remarquez dans Tite 1, verset 1, « Pour la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » En effet, le but de Paul n'est pas seulement que Tite conduise des âmes au Seigneur, mais c'est que ces âmes, ces convertis deviennent des disciples pieux qui vivent selon Dieu, qui vivent pour Dieu, qui sont engagés pour Dieu dans une vie conforme à la volonté de Dieu, qu'ils vivent de manière que leur conduite soit conforme à la volonté de Dieu. Dieu nous a sauvés pour nous sanctifier. Le but de Dieu, le plan de Dieu, c'est de te transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Romains 8, verset 29. On a été choisis pour ça, non seulement pour faire partie de sa famille et d'être sauvés de nos péchés, mais pour de vivre pour lui, de le glorifier. Puis j'aime la parole de Dieu parce que Dieu met les choses au clair. Dieu, ce n'est pas nébuleux ce qu'il demande de toi. Ce qu'il demande de moi, sa parole est claire. Elle éclaire nos yeux, elle est la lampe sur notre sentier, elle nous conduit dans cette vie d'obéissance, cette vie de piété. Donc oui, la bonne nouvelle est prêchée, les élus sont amenés à la foi au verset 1, dans Tite 1, verset 1, et cela conduit à une vie de piété conforme à la volonté de Dieu. L'Évangile non seulement nous sauve, mais transforme notre vie, afin qu'on puisse vivre et incarner l'Évangile. Nos pensées sont transformées. Romains, pensez à Romains 12, verset 1, le renouvellement de l'intelligence, ça commence là. Notre doctrine, ce que nous croyons, s'est transformé. Avant de connaître le Seigneur, on croyait des choses différentes. Le Seigneur a changé nos pensées, nos convictions, nos croyances, mais il a aussi changé nos vies. Nos vies sont transformées à la lumière de l'Évangile. L'Évangile crée des changements intérieurs qui produisent des fruits visibles à l'extérieur. Et c'est merveilleux dans la lettre ici qu'on voit, elle est tellement pratique, elle est tellement terre à terre ici, et il y en a, comme on a dit, pour toutes les âges, pour toutes les grandeurs. Donc, tournons dans Tite 2, verset 1. On va lire ensemble le chapitre au complet. Et avant de lire, faites juste remarquer avec moi l'inclusio au verset 1 et au verset 15. Il y a comme une parenthèse ici, évidente. Les mêmes mots sont répétés. Quand tu lis ta Bible et quand tu vois des expressions répétées au début et à la fin, souvent c'est comme une espèce de sandwich où l'auteur veut attirer ton attention. Il y a quelque chose qu'il veut te dire dans cette sandwich. Et remarque au verset 1, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Encore une fois au verset 15, Tite 2, verset 15, dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité. Lisons ensemble, Tite 2, verset 1. Pour toi, Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprend, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Voici la parole du Seigneur pour nous. Amen. L'idée principale ici, je crois qu'on voit au chapitre 2, c'est que la grâce, remarquez à partir du verset 11, la grâce que nous avons obtenue transforme notre vie de l'intérieur et change notre comportement extérieur dans le but de donner la gloire à Dieu et de rendre témoignage au monde extérieur. C'est une longue idée principale, mais je pense que c'est assez évident. Les versets 11 à 15, la grâce que nous avons obtenue nous transforme de l'intérieur et change notre comportement extérieur, les versets 1 à 10, avec des buts précis, dans le but de donner la gloire à Dieu, mais aussi de donner un témoignage pour un monde qui ne le connaît pas. Ce soir, j'aimerais en particulier commencer avec les femmes, puisqu'on a parlé beaucoup aux frères au chapitre 1, même si ça s'applique à tout le monde. Regardons en particulier à partir des versets 3 à 5 du chapitre 2, un premier groupe qu'on va voir ensemble, le groupe des femmes et l'interaction en fait entre le groupe des femmes âgées dans l'Église et les jeunes femmes. On ne parle pas ici seulement que d'une mère avec sa fille. On parle ici des femmes de l'Église, de l'interaction de la famille de Dieu, de la famille de l'Église de Saint-Léonard ou de l'Église de Rosemont. Les interactions que vous avez ensemble, mes sœurs, sont d'une importance primordiale. Non seulement que vous pouvez jouer un rôle l'une envers ou les unes envers les autres, mais il y a d'autres groupes comme les maris et les enfants qui bénéficient grandement de votre interaction et de votre influence spirituelle les unes envers les autres. Ce qu'on a lu peut-être il y a quelques instants, lorsqu'on parle aux femmes, ça a peut-être fait sautiller quelques-unes d'entre vous. On n'est pas habitué d'entendre un enseignement pareil, ce n'est pas quelque chose qui est promu dans nos écoles, certainement, que les femmes puissent avoir un rôle pareil. C'est un principe ici à l'envers. En fait, c'est pas la Bible qui est à l'envers, mais c'est le monde qui est à l'envers. Mais c'est plus facile de dire que c'est un principe à l'envers du monde. C'est le contraire de ce qu'on est habitué de voir dans nos vies. Au verset 3, regardez avec moi, d'abord les femmes âgées qui ont une apparence extérieure qui convient à la sainteté. De façon littérale ici, c'est une femme qui vit comme une prêtresse, qui est dédiée dans son service pour le Seigneur. Elle est parée non d'apparence extérieure, mais d'une spiritualité profonde. Sa sainteté extérieure et vient de son cœur, de la transformation qui s'est faite à l'intérieur. Remarquez aussi, d'abord, l'emploi de ce mot « médisance » que ma femme aime souvent me rappeler, parce qu'elle a appris ça à l'école biblique, que ça vient du mot « diabolos ». La médisance vient du mot « diabolos ». Ça vient du diable. Ça vient du Satan qui est le père du mensonge et qui aime utiliser la langue pour détruire des vies, pour détruire les uns les autres. Ici, ce n'est pas le club du commérage de l'Église. C'est le contraire. Les femmes ne sont pas médisantes, ne disent pas du mal de quelqu'un, ne vont pas rapporter « Hey, psst, savais-tu qu'une telle a… » Ce n'est pas ça du tout, l'influence des femmes plus âgées. Au contraire, plutôt que de diffamer une autre personne ou de calomnier en disant des faussetés ou des histoires inventées, la femme âgée, elle est reconnue pour une langue tenue en bride. Elle utilise sa langue pour construire les autres, pour encourager les autres. Elle a pris contrôle de sa langue plutôt que de se laisser aller dans ses paroles envers les autres. De plus, elle n'est pas adonnée au vin, elle n'est pas esclave ou asservie au vin, elle est maître de son corps et de ses appétits. Cette femme, une fois de plus, est le contraire de ce que nous pourrions voir dans notre société. Elle donne de bonnes instructions. Elle enseigne de bonnes choses. Ce n'est pas ici l'idée d'un enseignement formel d'une classe de femmes d'école du dimanche, quoique c'est une bonne chose. Mais ici, c'est dans le sens que sa vie est un modèle. Elle donne des bons conseils. Elle aide elle contribue à faire des disciples par l'exemple de sa vie et par son mentorat. Les femmes plus âgées ici sont invitées d'aider les femmes les plus jeunes. C'est encore un principe merveilleux. La famille de Dieu, c'est merveilleux d'être avec vous en fin de semaine. C'est trippant de voir les interactions de votre église et de vos églises. Ça donne le goût de joindre votre église. Vous comprenez? C'est merveilleux de voir la famille de Dieu qui passe du temps ensemble, la communion, le plaisir, les discussions. Et c'est merveilleux, c'est trippant. Et c'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la famille de Dieu vient ensemble et travaille ensemble, se serre les coudes ensemble et s'entraide les unes avec les autres. Je parlais avec notre sœur Louise Denis, qui m'a rappelé aussi non seulement des modèles masculins qu'elle a eus dans sa vie, mais des modèles féminins, des grandes femmes de Dieu que Louise, où es-tu Louise? Je ne te vois pas, mais ma sœur Louise, qui m'a partagé ça, puis ça m'a rappelé aussi, derrière tout grand homme de Dieu, il y a aussi une grande femme de Dieu. Billy Graham disait ça, puis c'est vrai. Il y a une grande femme de Dieu qui est derrière, qui soutient. Et les femmes, entre elles, ont un rôle important. L'idée du passage, c'est que même dans ma vieillesse en tant que sœur, je peux être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, même pour les plus jeunes. Même si je n'ai pas l'énergie que j'avais, je peux, avec le témoignage de ma vie, de précieux conseils et une vie de piété, de sainteté, on pourrait lire entre les lignes une vie de prière ici, une femme qui sait soutenir les autres femmes de l'Église, les femmes plus jeunes. Elle prend du temps. C'est évident qu'il faut, en vieillissant, on n'a pas l'énergie qu'on avait, mais quand même, puisqu'elle a passé par là, la femme âgée est un modèle pour les plus jeunes. Elle rappelle aux autres mères qu'un jour, ils vont sortir des couches. Elle rappelle aux autres mères que l'adolescence, ce n'est que pour une période de temps. Ce n'est pas indéfini, hein? Qu'un jour, ils vont voler de leurs propres ailes. Ne te décourage pas, j'ai passé par là. Mais elles vont aussi rappeler aux sœurs de rester à genoux, de continuer de prier, de continuer de garder la relation malgré des situations difficiles. Les femmes âgées jouent un rôle primordial dans le bien-être de l'Église locale. Et on le vit chez nous aussi. Quand les sœurs sont bien, toute la famille est bien. Mes frères, j'entends pas d'amen. Hein? Mon père disait « Happy wife, happy life », femme heureuse, vie heureuse. Eh bien, les jeunes femmes, vous avez beaucoup à apprendre et à regarder des femmes plus âgées dans l'Église. Comment ils ont élevé leurs enfants? Quels ont été les bons coups? Quels ont été les coups moins bons que si j'avais à refaire, je ferais différemment? L'humilité des sœurs plus âgées devient l'occasion, encore une fois, d'enseigner la prochaine génération. Évidemment, vous remarquez au verset 4 que les jeunes femmes aussi doivent avoir une disposition de cœur, de recevoir les enseignements des femmes plus vieilles. Celles qu'ils ont encore ici au verset 4 et 5, ils ont la charge d'enfants. C'est les femmes qui sont plus jeunes. Les âges sont partagés. Certains parlent des femmes de 50 ans et moins ou de 60 ans et moins. Je vous laisserai à vous décider qu'est-ce que vous considérez comme une jeune femme, parce que la Bible ne nous donne pas un chiffre précis. Cependant, si des fois on aime utiliser 1 Timothée chapitre 5, lorsqu'on parle des femmes qui étaient veuves, dans la liste, on parlait de l'âge de 60 ans. Mais bon, à vous de voir, la Bible nous parle tout simplement de femmes âgées et de femmes plus jeunes. Et ici, les femmes plus jeunes, vous êtes appelées à écouter celles qui ont passé avant vous. C'est sage de faire ça, de chercher le conseil de cette grande sœur dans la foi. Une sœur qui a passé par là, une mentor, une coach pour toi. Demande à une sœur, hey, j'aimerais qu'on puisse se parler, prendre une tasse de thé ensemble ou un café. J'aimerais te parler, aurais-tu du temps pour moi? J'aurais besoin d'avoir quelques conseils. Ou peut-être je veux juste exposer ma situation pour que tu puisses prier pour moi et m'encourager. J'ai besoin de recevoir de toi. Le rôle, il est intéressant de voir que les frères, il me semble que c'est encourageant pour nous de libérer notre femme pour qu'elle passe du temps avec d'autres femmes, parce que vous voyez déjà au verset 4 que non seulement que les jeunes femmes passent du temps avec les plus vieilles, mais qu'elles apprennent à nous aimer et à prendre soin de nous et des enfants. En effet, les femmes plus âgées donnent cet exemple aux jeunes femmes et les aident dans leur processus de maturation spirituelle. Les maris aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, mais les femmes ont un rôle très difficile. Si le mari n'aime pas sa femme comme Christ a aimé l'Église en se sacrifiant pour elle, c'est extrêmement difficile de se soumettre au leadership de son mari. C'est difficile d'aimer ses enfants quand elle est constamment en train de donner à ses enfants et qu'elle n'est pas aimée et servie par son mari. Mes frères, on a un rôle primordial ici, non seulement de prendre soin de notre femme, nos enfants, mais de libérer notre femme, de lui donner des opportunités pour qu'elle puisse être encouragée par d'autres femmes de l'Église. Lorsqu'on fait l'annonce dans notre église, merci les sœurs, il y en a qui écoutent. Lorsqu'on fait l'annonce dans notre église qu'il y a un déjeuner des femmes, lorsqu'on fait l'annonce, on s'adresse directement aux hommes et on dit, les frères, c'est à vous de faire le déjeuner et le petit ménage du samedi pour que votre femme puisse venir au déjeuner samedi. Donc, on veut, alléluia, hein? On veut libérer. On veut libérer nos femmes. Mais mes sœurs, c'est pas mes jeunes sœurs, je m'adresse à vous en particulier ici. Le texte nous parle d'être retenu. Vous remarquez au verset 5, d'être retenu chaste, d'être sage et tempéré, maître d'elle-même. La chasteté ici est vue aussi dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 9 à 10. Ça parle ici de pudeur et de modestie. Ça parle de pureté sexuelle, de discipline, de fidélité conjugale. Ça parle ici d'une femme qui se revêt non d'une beauté extérieure, mais qui se revêt de la beauté spirituelle du Seigneur qui la transforme de l'intérieur. Des fois, ce qu'on dit dans notre Église, on dit aux jeunes sœurs, habille-toi de façon à ce que les frères aient les yeux concentrés sur le Seigneur et pas sur toi. Ne sois pas une distraction. Et je remercie Dieu, je pense à une sœur en particulier qui fait vraiment bien ça pour encourager les jeunes filles à la pudeur et à la modestie. Et c'est pas populaire. Parler de ça, frères et sœurs, c'est contre-culturel. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire concernant la tenue vestimentaire de quelqu'un. C'est totalement contraire aux Écritures. Dieu demande à ce que les femmes plus jeunes soient revêtues d'une modestie, qu'on soit tenu. L'Évangile qui nous transforme, transforme même la façon dont on va s'habiller, se revêtir. Et le clou ici au verset 5, c'est les femmes qui sont attachées aux soins domestiques. Wow, dis ça aujourd'hui. J'ai prêché dans plusieurs mariages et lorsque je parle de la soumission de la femme, dès que c'est des non-chrétiens qui ne peuvent pas comprendre ça, mais imaginez si on leur parlait d'être occupés aux soins domestiques. Je pense qu'on se ferait lancer des tomates, n'est-ce pas? Mais encore une fois, je voudrais bien vous donner une explication plus compliquée, mais il n'y en a pas. C'est simple. La Bible dit ce qu'elle dit. C'est très simple. Je comprends qu'on aime un défi intellectuel. Je sais que nos sœurs sont douées et intelligentes, mais nous vivons dans une société où la famille s'est effritée. Et une des raisons, c'est parce que on a voulu, avec le féminisme, démontrer l'indépendance de la femme. Plutôt que la femme joue son rôle comme aidante. C'est comme ça qu'elle a été créée. On retourne à la Genèse. Elle a été créée pour accompagner et soutenir son mari, pour faire équipe ensemble. Et les femmes ici, ce n'est pas ici l'idée que vous n'avez pas ou vous ne pouvez pas travailler à l'extérieur. L'argument ne ferait aucun sens. Lisez les Proverbes, Proverbe 31. La femme dans Proverbe 31, elle est très impliquée. Elle travaille à l'extérieur. Elle sort de la maison même pour être marchande de pourpre. Ce n'est pas l'idée du travail à l'extérieur comme tel. Mais ici, c'est l'idée que sa priorité, c'est de s'occuper de sa maisonnée. C'est d'être la chef de l'oïkos, de la maison. C'est elle qui s'assure que la vie à la maison, la sphère familiale de sa maison, elle veille à ça avec attention. Elle prend soin de son mari au verset 4. Elle prend soin de ses enfants en veillant sur la maisonnée. Et je ne parle pas ici des quatre murs, ni du ménage. Je parle ici de l'atmosphère ici de la maison, de l'impact lorsqu'on priorise de s'occuper de sa maisonnée en étant attaché aux soins domestiques, on est en train d'investir. C'est un investissement dans notre famille. Mes sœurs, c'est un travail qui est extrêmement ingrat et peu apprécié dans notre société. Mais lorsque vous jouez le rôle que Dieu vous demande de jouer, mes jeunes sœurs, en gardant la maison comme le point central, en gardant la maisonnée, le mari, les enfants comme la priorité, cet investissement-là vous rapportera dans les années à venir. Un prédicateur aime nous rappeler que si on investit les 15 ou 20 années qu'on a des enfants avec nous, qu'on investit avec eux, on va récolter plus tard la bénédiction de ces enfants qui marchent avec Dieu et qui aiment Dieu. Et si les enfants ne suivent pas Dieu, bien au moins on aura fait tout ce qu'on pouvait pour leur transmettre la beauté de l'Évangile. Ainsi, les femmes, il y en a des femmes célibataires dans la Bible. Il y a des femmes qui travaillent. Ce n'est pas qu'on veut maudire le travail à l'extérieur de la maison, mais ici l'emphase est sur la priorité de s'occuper de sa maisonnée, d'investir à la maison. Et nous, on a fait ce choix-là. Ma femme et moi, c'était un critère. Lorsqu'on s'est rencontrés, on avait 19 ans. Ça va faire 20 ans la semaine prochaine qu'on est mariés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On a encore 30 ans pour rattraper Dominique et Anne qui vont fêter 50 ans de mariage le 9 septembre. Merci Seigneur. Mais quand on s'est rencontrés, je lui ai dit deux choses. Je pense que le Seigneur m'appelle au ministère et j'aimerais que tu restes à la maison avec les enfants. J'ai fait ça avant même qu'on se fréquente parce que j'étais tellement convaincu. C'est le témoignage que j'avais vu dans ma vie avec ma mère. Et j'ai mis ça comme une priorité dans ma vie. Je lui ai dit, chérie, je serais prête à vivre avec moins. Je préférais vivre avec moins puis qu'on ait des enfants et qu'on investisse le maximum qu'on peut dans leur vie, investir pour les élever dans le Seigneur. Je sais, c'est pas populaire, on parle de 8% d'inflation, Daniel nous a dit ça hier, c'est extrêmement difficile avec le coût de la vie d'arriver aujourd'hui avec ça. Mais mes sœurs, il y a tout un investissement à faire dans votre famille et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que la femme âgée enseigne la plus jeune à aimer son mari, à aimer ses enfants, mais aussi à s'attacher à sa maisonnée, à être soumis, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Quel témoignage vous apportez dans votre maison? Au verset 6, on change de catégorie, on va aller rapidement pour terminer ce soir. On va parler aux jeunes hommes. J'ai pensé m'adresser à vous, les jeunes frères. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les hommes âgés, on leur demande 4 choses au verset 2. Les femmes âgées, on leur demande 5 choses au verset 3. Les jeunes femmes, on leur demande 7 choses dans les versets 4 et 5. Mais les jeunes hommes, on vous demande seulement une chose. Seulement une chose. Certains disent que les jeunes hommes sont seulement capables de faire une chose à la fois. À vous d'être d'accord ou pas. Ma femme est d'accord avec moi. Elle est d'accord avec ça. Mais c'est pas qu'on a moins besoin de transformation, mais c'est que le Seigneur, par l'entremise de son serviteur, met le doigt sur le bobo. C'est plutôt l'idée ici que les jeunes hommes, moi inclus, ont tendance à être impétueux, à manquer de retenue dans leur conduite. Et c'est le besoin essentiel pour un jeune homme d'être modéré dans sa conduite, de cultiver l'équilibre, la maîtrise de soi de façon quotidienne. Ici, l'emphase serait une modération dans le sens sexuel, dans le sens du travail, dans le sens de l'excès du boire. La modération ici touche toutes sortes de domaines pratique de notre vie. Jeune homme qui m'entend ce soir, Dieu t'invite à la modération, à être dirigé, contrôlé par le Saint-Esprit, d'agir avec sensibilité, d'avoir un jugement adéquat, le gros bon sens, si vous voulez, conduit par l'Esprit-Saint. De développer, mon jeune frère, l'habilité de contrôler tes désirs et tes impulsions dans le but de produire une vie ordonnée et sous contrôle. Un de mes amis ici va parler du syndrome de Peter Pan. Est-ce que vous connaissez Peter Pan? C'est quoi le syndrome de Peter Pan? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut jamais vieillir, oui mon fils, et il veut toujours s'amuser, jamais vieillir. N'est-ce pas le reflet de notre société aujourd'hui? Où sont les hommes? Ils ont à apprendre, les hommes, dans leur jeunesse, à être modérés. C'est correct d'avoir du plaisir, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Le chrétien est appelé à travailler fort dans sa vie. Le jeune homme, tu es appelé à travailler, à bâtir ta maisonnée, à économiser. On parlait aujourd'hui avec Isaac d'économiser, hein? L'idée de mettre des sous de côté et de préparer la venue de ton épouse que Dieu t'enverra, de préparer la venue des enfants. Jeune homme, commence tout de suite dans la modération. Ne vis pas comme Peter Pan qui veut jamais vieillir et toujours avoir du plaisir, mais vis pour Dieu. Consacre ta vie pour Dieu maintenant. Donne ta vie à Christ et sers-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Avec l'aide du Saint-Esprit, laisse Dieu former ta vie et va voir des frères dans l'Église. Fais comme les jeunes sœurs qui vont voir les plus vieilles. Va voir des frères plus âgés. Demande-leur, aide-moi. Je veux être celui qui est reconnu pour sa modération, qui laisse l'Esprit Saint conduire et diriger sa vie. Chers amis, aujourd'hui, en conclusion, nous remercions Dieu pour sa parole et pour sa transformation qu'elle opère dans nos vies. Continuez, vous allez devoir finir de lire Tite sans moi, mais vous avez la parole de Dieu entre les mains et l'Esprit Saint. Et il y a quelque chose pour vous ici dans ce passage. Que tu sois un employé, que tu sois un jeune homme, une jeune femme, que tu sois un frère plus âgé, une sœur plus âgée, que ta vie honore le Seigneur, que la grâce que tu as reçue, qui t'a sauvé, qu'elle transforme ta vie aussi quotidienne de tous les jours, afin que tu sois un témoin, un disciple qui rayonne la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour ta bonne parole ce soir. Merci pour ta parole qui nous parle, qui nous enseigne à vivre pour toi, pas selon le monde, mais à vivre selon le Dieu qui nous a transformés. Seigneur, merci de m'avoir sauvé, mais merci aussi de me transformer. Tu te préoccupes, Seigneur, de ma sanctification. Tu veux, Seigneur, m'apprendre à être modéré dans mes pensées et dans ma conduite. Merci, Seigneur, de faire ces changements dans ma vie. Esprit de Dieu, merci pour les femmes aussi. On a parlé d'elles ce soir. Nous prions que les jeunes femmes et les femmes âgées de l'Église de Saint-Léonard, l'Église de Rosemont, puissent s'attacher à toi d'une façon spéciale. Qu'elle soit un témoignage puissant de ce que fait l'Évangile dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, spécialement pour ces sœurs dans un monde difficile, un monde qui met beaucoup de pression sur la femme pour qu'elle s'accomplisse. Seigneur, nous prions que nos sœurs puissent s'accomplir en suivant tes priorités. Ô notre Dieu, je te remercie pour ma mère en particulier, qui a été un exemple pour moi dans ce passage et qui m'a grandement influencé. Merci pour ces sœurs qui ont semé, qui ont investi avec larmes, avec toute la tendresse et l'amour que tu leur donnes, afin de faire des disciples de leurs enfants. Nous prions, Père, ta bénédiction spéciale sur elles. Nous te remercions, Seigneur, pour cette belle Église, l'Église que tu es en train de construire pour l'éternité. Nous prions, Père, que tu nous purifies. Nous avons hâte d'entrer à la maison, comme on a chanté tout à l'heure. Oui, Seigneur, transforme nos cœurs, sanctifie-nous pour ta plus grande gloire. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen.